BFM Business. Midi, l'heure H. Erwan Maurice.
Cette période estivale n'est pas simple. Les plans sociaux, les rachats d'entreprises se succèdent et ce n'est probablement pas terminé. La rentrée s'annonce compliquée hein, sur le plan économique, avec une crise de l'emploi en ligne de mire, des possibles refermetures d'établissements, notamment dans la restauration. Mais pour l'heure, les entreprises, l'économie encore résistent, et en grande partie hein, grâce aux aides de l'État. Bonjour Maya Tigue.
Bonjour Erwan Maurice.
Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes la directrice générale de la Fédération bancaire française, qui représente donc l'ensemble des banques installées en France. Le secteur bancaire s'est largement engagé ces derniers mois pour soutenir l'économie et les entreprises françaises. Peut-on d'abord faire un point avec vous, Maya Tigue, sur les PGE? Quel est le montant global accordé pour l'heure?
Oui. Le montant global des prêts avec la garantie de l'État est de 115,5 milliards d'euros. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que 560 196 entreprises, pour être très exact, en ont bénéficié. 560 000 entreprises, c'est énorme. Donc le déploiement a été massif de ce dispositif par lequel les banques ont prêté avec la garantie de l'État. Il faut également noter que les banques ont accordé des moratoires sur les crédits tout à fait standards qu'elles avaient réalisé auparavant. Et donc, ça, c'est un soutien de trésorerie sur ces moratoires qui a permis aux entreprises de ne pas décaisser environ 20 milliards d'euros depuis 6 mois. Et donc, ce dispositif a également été un soutien très fort aux entreprises.
Bon, ce sont des chiffres tout frais là que vous nous donnez sur BFM Business, Maya Tigue. On avait donc les derniers chiffres remontent à la fin du mois de juillet, 550 000 entreprises soutenues pour un montant total de 114 milliards d'euros. Donc on voit que là, le processus se poursuit encore pendant l'été et probablement pour la rentrée.
Oui, exactement. La grande nouveauté de ce mois d'août, c'est le PGE saison. C'est-à-dire un PGE qui est destiné aux entreprises des secteurs touristiques pour lesquels, bien sûr, la moyenne des 3 meilleurs mois de l'année est beaucoup plus significative que les 3 mois moyens d'une année. Donc, en fait, on va augmenter la capacité d'emprunt pour ces entreprises-là du secteur touristique. Donc, ça a été lancé au mois d'août. Aujourd'hui, les professionnels du tourisme sont évidemment mobilisés par leurs clients partout où il y a des touristes. Ils ne pensent pas forcément, bien sûr, au premier chef à aller demander ce complément de PGE. Et justement, ce complément-là, il est fait pour leur permettre, à la rentrée, quand ils auront bien fait le point sur la saison, quand ils auront vu où ils en sont, de demander, ou pas d'ailleurs, ce complément de prêt avec la garantie de l'État et de le rembourser un an plus tard.
Les PGE saison qui sont encore bien sûr au cœur de ces aides dont peuvent bénéficier les entreprises. Est-ce que ces montants-là dont vous nous parlez correspondent à ce que vous aviez prévu, à ce que vous aviez anticipé?
Alors, c'était le calibrage de départ, c'était 300 milliards d'euros. Ça a été mis très haut pour montrer que, si vous voulez, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas à s'inquiéter d'atteindre la limite au début. On a vu assez rapidement, au mois d'avril, quelles étaient les tendances. On va atterrir à peu près, effectivement, au montant qu'on estimait, entre 120, 130 milliards d'euros. Ce qui est important surtout, c'est de voir que ça concerne une très très grande diversité d'entreprises. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. Le dispositif a été bien compris, il est bien réparti dans l'économie. Les TPE, les très petites entreprises, en sont très fortement bénéficiaires. C'est quasiment 90% des bénéficiaires. Les montants moyens sont de l'ordre de 180 000 euros. Donc même de très petites entreprises ont pu y avoir recours, ainsi que bien entendu des PME, des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises.
Donc il y a encore de la marge. Est-ce que vous recevez encore beaucoup de demandes ou bien vous estimez que le gros de la crise est derrière vous?
Non, on a vraiment le sentiment que l'essentiel de la demande a été apporté. Je mets de côté la situation du secteur du tourisme, où encore une fois, je crois que c'est vraiment une fois que le secteur aura fait le point sur sa saison qu'il pourra demander ou pas ce complément. En réalité, ces PGE, ils peuvent être demandés jusqu'au 31 décembre. Donc, plus tard, ce sera demandé. Et plus tard également, les entreprises pourront en faire le remboursement. Et donc, elles pourront aussi bénéficier de l'année 2021 et de la saison 2021 pour constituer les réserves utiles.
Bon, Maya Attic, directrice générale de la Fédération bancaire française, est-ce que vous sentez néanmoins monter les difficultés avec les plans sociaux qui ont eu lieu pendant l'été, qui pourraient aussi vraisemblablement se poursuivre à la rentrée ?
Alors, je crois qu'il faut avoir une vision assez nuancée des choses et vraiment garder la tête froide. D'abord, la situation des différents secteurs est contrastée. Ensuite, chez ceux qui vont mal, il y a différents outils qui sont mis en place. Vous savez qu'il y a eu des accords pour maintenir l'emploi, des accords qui demandent des efforts à l'ensemble, hein, aux entreprises, aux salariés. Donc ça vise à traverser la crise de façon structurelle. Et puis, quand on parle d'aide de l'État, il y a également de très nombreux dispositifs fiscaux et sociaux qui sont mis en place. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas rater le rendez-vous de la rentrée. Le rendez-vous de la rentrée, c'est que chaque chef d'entreprise devra faire le point sur ses perspectives d'activité et ses possibilités d'allègement de trésorerie, notamment via tous les dispositifs fiscaux qui ont été ouverts. Plus tard que cette semaine, l'État en a proposé. Donc, si vous voulez, une fois que vous avez la photo globale de votre situation en tant que chef d'entreprise, vous en parlez avec votre banque notamment, hein, puisque une partie des échéances de crédit vont commencer à être remboursées, une partie de ce qui avait été suspendu là pendant le confinement va reprendre là en septembre. Et mon message clé, c'est vraiment de conserver cette qualité de dialogue avec la banque. Hein. La banque, c'est pas le guichet où on va demander le PGE. La banque, c'est le lieu du dialogue avec un conseiller qui va permettre de trouver également des solutions de nature bancaire pour traverser la suite de cette période. Donc, je crois que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de situations variées. Il y a aussi des gens qui créent des entreprises en cette période. Il ne faut pas les oublier. Et c'est la nature des entrepreneurs d'être lucides et positifs par rapport à leur avenir.
Sur la question des échéances, est-ce que le sujet des reports d'échéances est encore un sujet pour vous ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des prolongations ?
Alors, des prolongations sont prévues pour le secteur du tourisme, justement. Pour les autres secteurs, ce n'est pas prévu. Donc, vraiment, je crois que toute l'information nécessaire est donnée aux entreprises pour leur permettre de réamorcer, je dirais, une vie normale, des remboursements normaux d'échéances également, pour ceux qui en avaient, et donc pour faire ce point de situation financière avec leurs conseillers.
Voilà. Donc, les PGE sont garantis par l'État à hauteur de 70 à 90%. Est-ce que vous anticipez aussi un risque d'impayé de la part de certaines entreprises, pareil pour d'ici la fin de l'année ou même début d'année prochaine ?
Alors, tout d'abord, les PGE commenceront à être remboursés à partir de mars-avril 2021. Donc, à ce stade, aujourd'hui, ça n'est pas un sujet. La montée la question du remboursement des PGE se posera à ce moment-là et les entreprises auront le choix entre rembourser tout de suite ou étaler sur les 5 années suivantes. Donc, je crois, là encore, qu'il faut vraiment regarder ce sujet avec beaucoup de sérénité et profiter de la rentrée, de faire le point sur ce qui s'est passé pendant l'été pour aborder toute cette phase de remboursement d'échéances dans les années à venir de la façon la plus rationnelle possible.
Ouais. Bon, on a vu en tout cas qu'à travers les résultats des banques ces dernières semaines, les provisions sont faites, peut-être aussi pour anticiper ces risques que d'impayés. Les banques ont plus que doublé leurs capitaux propres par rapport à la crise financière de 2008. Sur le plan de relance, il sera dévoilé dans son intégralité le 25 août. On a déjà quelques éléments, notamment les 3 milliards d'euros en fonds propres pour les PME qui souhaitent investir dans le développement et l'innovation. Là-dessus, on parle d'un taux d'emprunt qui irait de 4 à 5% pour ces entreprises, c'est ça ?
Alors, tout ça, ce sont des paramètres assez complexes, financiers, juridiques, à discuter également avec les autorités européennes. Ce sera probablement dans cette fourchette-là, mais ça n'est pas encore totalement défini. Voilà, donc c'est vraiment un sujet pour cet automne.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de PME est-ce que ça va viser ? Est-ce qu'on a des indices là-dessus ? Quelles conditions il faudra remplir pour pouvoir être éligible ?
Oui, là encore, c'est un sujet qui est très largement à discuter du fait de multiples paramètres à fixer. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une solution pour des investissements d'avenir. Autrement dit, ce n'est pas une solution de secours quand on ne peut pas rembourser ses crédits par ailleurs. Donc, ça suppose d'avoir des projets de développement et des perspectives de développement assez fortes, et puis une base pré-crise déjà relativement solide. Donc, comme pour le PGE, c'est un dispositif qui est sélectif. C'est le niveau de la sélection qui n'est pas encore connu et sur lequel il y aura des éclaircissements dans les prochaines semaines.
Sur tous ces sujets, Mayati, vous arrivez toujours bien à travailler avec l'État, à discuter avec Bercy ?
Oui, je crois que vraiment, ce que l'on peut tous dire, c'est que la qualité de relation avec Bercy et puis aussi avec les associations professionnelles, nous travaillons avec la CPME, avec le MEDEF, avec l'UDP, est extrêmement bonne. Ça nous permet le PGE saison ou les moratoires. Il peut y avoir des difficultés ici et là, mais ce qui est vraiment très important, c'est d'arriver à s'en parler et de trouver des solutions.
Jusque-là, les taux de refus des prêts sont assez bas, 2,7% de refus de prêts aux entreprises. Ça veut dire que les banques ont bien joué le jeu pendant toute cette période ?
Écoutez, elles avaient dit qu'elles se mobiliseraient. Elles se sont mobilisées sur leurs propres crédits. Elles se sont mobilisées sur les crédits qu'elles ont faits avec la garantie de l'État. Donc, je crois que c'est une promesse tenue et qu'elle continuera à être tenue. Mon principal message, c'est vraiment que les banques seront aux côtés des entreprises pour leur permettre de traverser cette période au mieux, ouais, avec une très grande variété de situations. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il y a une telle variété de situations que c'est vraiment par l'accompagnement de proximité qu'on peut proposer des solutions qui correspondent vraiment aux besoins de chacun.
En tout cas, le secteur bancaire n'a pas été autant critiqué que celui des assurances ces dernières semaines. Est-ce que vous allez continuer à faire de l'accompagnement des entreprises votre priorité absolue dans les prochains mois ?
C'est la priorité de l'ensemble des banques. C'est celle qui est la plus visible. Je tiens à dire que, bien évidemment, toute l'activité au service des particuliers continue de manière extrêmement dynamique dans tous les domaines. Par exemple, en matière de banque au quotidien, vous avez des innovations en matière de paiement, des innovations continues. Vous avez des améliorations de services. Vous avez la hausse du plafond sans contact qui a déjà eu lieu, qui a été très bien absorbée. Le crédit immobilier continue à être dynamique avec des conditions qui changent un peu du fait des demandes des autorités, que les apports personnels soient plus élevés. Donc, on a vraiment une activité tous azimuts et un engagement très fort aux côtés des entreprises pour les aider à traverser cette situation.
Pour terminer avec vous, Maya Attic, directrice générale de la Fédération bancaire française, un mot sur l'emploi dans votre secteur. On a vu pendant le confinement et même après que la relation client à distance avec les banques fonctionne très bien. Est-ce qu'il faut s'attendre à des restructurations, à des plans sociaux aussi dans les banques dans les mois à venir ?
Je pense que les transformations de la banque, ce sont des transformations structurelles. Donc, il y a une érosion de l'emploi dans la banque depuis quelques années. Ça n'est pas une nouveauté. Ça s'est toujours fait en transformant l'emploi, c'est-à-dire en changeant des qualifications, en investissant dans la formation, en permettant également des promotions sociales, en permettant des évolutions vers le statut de cadre, par exemple. Donc, la banque continue à beaucoup recruter, à recruter des jeunes et ensuite à les faire progresser, jeunes et moins jeunes. Et donc, les enjeux que l'on connaît aujourd'hui, avec effectivement beaucoup plus de services proposés à distance, ça veut aussi dire qu'on peut transformer des emplois et les orienter davantage vers le conseil et vers la gestion des risques, par exemple, que vers des activités quotidiennes comme on les a connues jusqu'à présent.
Donc le secteur de la banque qui va bien sûr continuer à se transformer, à innover, à se moderniser, notamment avec cette crise qu'on a connue et qui touche aussi les banques. Merci beaucoup Maya Attig d'avoir été avec nous sur BFM Business et de nous avoir apporté tous ces éléments, tous ces derniers chiffres là sur les PGE, notamment Maya Attig, directrice générale de la Fédération bancaire française. Restez avec nous dans un instant. Nous retrouvons Raphaël Dandris, président du Havas Village. Comment accompagner les marques dans leur retour à la croissance ? C'est la question qu'on va lui poser. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice.
Bonjour Fred Dandrys.
Bonjour Erwan.
Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le président du Havas Village et qui rassemble les expertises de la communication au sein du groupe Havas. Plusieurs sujets d'actualité avec vous, Raphaël Dandrys, puisque vous êtes à la fois une entreprise et puis par ailleurs vous accompagnez, vous aidez aussi les autres entreprises, notamment sur le volet de la communication dans cette période compliquée. Alors commençons par le masque, parce que c'est quand même un sujet fort d'actualité. On apprend d'ailleurs par un article du Figaro aujourd'hui que probablement dans quelques semaines sur les studios télé, le masque sera aussi obligatoire. Bon, on verra en tout cas ce que ça donnera. Il va devenir en tout cas le masque obligatoire dans toutes les entreprises en France à partir du 1er septembre, hein, comme l'a réclamé la ministre du Travail Elisabeth Borne. Là-dessus, Raphaël Dandrys, vous avez réagi dans un tweet en disant que le masque est une petite contrainte pour de grands effets. D'ailleurs, sur votre photo de profil, vous portez le masque. Est-ce que vous avez décidé comme ça de prendre les devants et d'anticiper les règles sanitaires qui vont arriver là dans quelques jours?
Alors oui, clairement, chez Havas, on a décidé d'anticiper les règles sanitaires. Pour ne rien vous cacher, je pense qu'on avait des échanges quasi quotidiens pendant toutes ces vacances avec, en particulier, Yannick Bolloré, qui est très soucieux de la santé des salariés et puis l'état-major d'Havas, notamment en France, pour s'assurer qu'on ferait une rentrée dans les meilleures conditions. Et donc, il a été décidé avant le gouvernement que nous allions rendre le masque obligatoire pour les collaborateurs dans les bureaux.
Vous n'étiez pas spécialement favorable au cas par cas ou à dire que les entreprises sont responsables et peuvent prendre les mesures par elles-mêmes? On a beaucoup entendu les responsables, les partenaires sociaux, le MEDEF, la CFE-CGC, les chefs d'entreprise aussi qui nous disaient on n'a pas besoin que l'État nous impose le masque pour tous les collaborateurs en entreprise, on est assez grand pour prendre les décisions. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis plutôt confortable dans le fait que l'État nous donne un point de vue sur les directives de santé publique. J'observe que toutes les tous les caissiers caissières, tous les travailleurs qui n'ont pas le choix le font. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas très confortable, mais on traverse un moment très difficile et donc nous, ça nous pose aucun sujet parce qu'on s'aligne complètement là-dessus. Après, moi, il me semble que l'État est dans son rôle de donner des directives pour la santé des Français. Enfin,
très bien. Le port du masque, maintenant, il faut aussi en faire un argument de communication pour les entreprises, pour rassurer les clients. C'est aussi ça que vous dites aux entreprises avec lesquelles vous travaillez?
Non, nous, on ne fait pas du masque un argument de communication. Le masque est une nécessité, quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on gère en pensant que c'est une des réponses, pas la seule. Je ne vais pas faire ici un cours sur les gestes barrières. Mais le masque nous semble une mesure de bon sens. Moi, je prends le métro beaucoup et donc je mets un masque très régulièrement dans les transports en commun où tout le monde le fait. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est évidemment, c'est un enjeu de responsabilité pour chacun, ni plus ni moins.
Quand on est client d'une entreprise, on va peut-être aussi regarder si l'entreprise fait bien attention à mettre en place toutes les bonnes pratiques de sécurité.
Oui, vous parlez
sanitaire.
Des clients, les nôtres,
bien
par
sûr.
Exemple. Oui, alors d'ailleurs, j'étais. Oui, effectivement, c'est vrai que nous, la santé. Enfin, nous, on est un groupe familial. Alors, je ne dis pas que tous les groupes ne font pas ça, mais un groupe familial, ça veut quand même dire que vous avez un attachement un peu familial à à vos salariés. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'énergie mise là-dessus. Nos clients aussi. Moi, j'ai pas vu un patron, j'ai eu des patrons pendant cette période de confinement au téléphone qui quotidiennement, chacun avait comme priorité numéro un, la santé de ses salariés. Et donc je pense que nous comme les autres, peut-être plus que certains, mais globalement comme les autres, on a fait très très attention à ça.
Bon, la communication, c'est aussi un secteur qui a été atteint par la crise, ou au contraire, vous avez eu plus de travail pour sensibiliser, pour mettre en place des campagnes?
Non, la communication a été très lourdement impacté par la crise. Alors même que les consommateurs, paradoxalement, étaient très, 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 très en demande d'actes de communication pendant cette période. Mais bon, on peut comprendre qu'une enseigne qui a ses magasins fermés ne communique pas tout le temps. Cela dit, d'autres ont choisi de le faire et ça leur a donné beaucoup d'élan pour la sortie du confinement. On a bien vu que celles qui avaient, je prends un exemple, mais il y en aurait plein d'autres, mais notamment Decathlon a fait très très attention à communiquer, notamment en publicité, beaucoup pendant la période de confinement. Oui. Ses magasins étaient fermés. Son site était ouvert, mais ses magasins étaient fermés. Et Decathlon est ressorti très très puissant à l'issue du confinement. C'était pas gagné. Et je cite Decathlon ici, mais je pourrais en citer d'autres.
Allez-y, mais par exemple, soyons très concrets. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place qui a fait que leur image a été préservée?
Alors d'abord, l'image des entreprises n'a pas été atteinte, loin de là, puisque en fait les grandes entreprises qui souvent sont très attaquées parce que c'est facile, se sont retrouvées, je pense à la grande distribution alimentaire, comme des plateformes logistiques indispensables pour les Français. Diverses très grandes entreprises, finalement, parce qu'elles ont des capacités logistiques, de services, de process, se sont révélées absolument essentielles. Donc, on a bien vu. Après, il y avait celles qui étaient ouvertes et celles qui étaient fermées. Celles qui étaient fermées manquaient aux gens. Donc, on a vu des gens qui nous disent « Moi, je veux aller chez les Leroy Merlin, je veux aller à la Fnac, je veux aller ici, je veux aller à gauche, je veux aller à droite. » Parce que ça leur manquait. Donc, beaucoup la culture et le bricolage, d'ailleurs, sont venus très, très fort. Et puis, vous avez des entreprises comme Orange, comme votre maison mère SFR, qui ont fait un boulot absolument hallucinant. Je pense à EDF et compagnie. Et donc, on a vu beaucoup d'entreprises, au contraire, sorties grandies de cette épreuve qu'ont traversée les Français.
D'après une étude que vous avez menée avec l'Institut CSA, 40% des annonceurs disent que la réputation de leur marque a été impactée pendant la crise du coronavirus, mais les trois quarts disent que cet impact a été positif.
Oui, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce moment de vérité absolument inédit, c'est que les gens ont un peu laissé disparaître l'écume de « je pense, je fais », voilà, de ce qu'ils pensaient, de leurs émotions instantanées, en se disant en gros « qui m'aide ?» Ouais, qui m'aide ? Or, les grandes entreprises... Pas uniquement. Les petites entreprises ont fait un boulot génial quand elles ont pu, donc je ne veux pas là non plus. Mais les grandes entreprises ont une technicité, un savoir-faire, une puissance, une régularité dans leur capacité à délivrer un produit, délivrer un service en temps et en heure qui est incroyable. Vous imaginez la France entière qui passe en télétravail. Je parle des cadres, hein. Il y a beaucoup de gens qui étaient au quotidien sur le terrain, mais tous les cadres de France qui passent en télétravail, tout d'un coup, vous imaginez, ça veut dire pour les réseaux de SFR ou d'Orange, par exemple, ou de Bouygues, c'est monstrueux. Mmh. Derrière ça, moi, quand je discute avec les patrons de ces entreprises et les dirigeants de ces entreprises, je vois des gens qui ont vécu des choses inédites. Le consommateur s'en est aperçu.
Dans cette étude que je citais, 9 entreprises sur 10 disent aussi vouloir communiquer différemment à l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de numérique? C'est ça vraiment le sujet numéro 1?
Le numérique, c'est une accélération, indiscutablement. Le vrai changement, et nous, c'est notre vision chez Havas depuis 10 ans maintenant, c'est le sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du commerce uniquement à court terme, et comme disent les Américains, take the money and run, ça ne marche plus. Et donc les entreprises, elles ont retrouvé aux yeux des Français, je dirais, une utilité qui les relégitime et qui leur redonne un socle. Après, il faut utiliser cette légitimité pour avoir une approche durable du business.
Bon, les grands chantiers de la communication maintenant, la rentrée arrive, ça se résume à quoi ?
Les grands chantiers de la communication, d'abord, c'est de dire que le mot communiquer, c'est un des plus beaux mots du monde. Communiquer, le jour où on ne communique plus, franchement, on est confronté à des vrais problèmes. Et donc, il faut revenir à la racine de ce mot et faire de la communication qui ait du sens et qui aussi, puisqu'on lui reproche à la communication d'avoir une influence sur les comportements des gens, souvent les détracteurs nous disent « Oui, vous comprenez, vous manipulez les gens. » On les manipule pas. On raconte l'histoire qui nous paraît la plus intéressante à raconter. Il faut que ces histoires-là, elles s'alignent avec l'intérêt des gens et de la planète.
Merci Raphaël Dandrys.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous, président du Havas Village. On se retrouve dans un instant pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, à tout de suite.
Tout l'été sur BFM Business, plongé au cœur de l'écho. Focus, interview et débat, inside. Tout pour comprendre les enjeux de l'actualité du jour. Décideurs, entrepreneurs, experts et spécialistes de la rédaction confrontent leurs opinions et livrent leurs analyses sur les grands sujets business de la journée. Inside, du lundi au jeudi, 18h-19h30 sur BFM Business. BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Morris.
Merci d'avoir choisi BFM Business. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité économique avec Camille Riouel.
Apple continue de monter en puissance. Le géant américain a franchi hier le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation. C'était du jamais vu pour Wall Street. Il y a 2 ans, Apple avait dépassé la barre des 1000 milliards de dollars. Une performance d'autant plus impressionnante que le titre était tombé sous ce seuil il y a tout juste 5 mois. On écoute là-dessus Sabrina Quagliozzi, la correspondante de BFM Business à New York.
2000 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est l'équivalent d'un Cisco, Oracle et Salesforce combinés. Et encore, il y a un peu de marge. Alors si ce seuil est essentiellement bien sûr symbolique, cela montre néanmoins la réussite de son patron, Tim Cook, à transformer l'image d'Apple en une société de software, de services et non pas uniquement de hardware. Depuis le début de l'année, c'est une hausse de 60% pour le titre Apple. Le confinement a accéléré l'adaptation des consommateurs aux nouvelles technologies. L'annonce de la division du titre a été le dernier tremplin, un bel investissement pour les fans d'Apple, d'ailleurs de la première heure, hein, si vous aviez renoncé à acheter le premier iPad, c'était le 3 avril 2010, souvenez-vous, investi à la place les 499 dollars en titre Apple, vous auriez aujourd'hui 6950 dollars en poche. Mieux, avec le premier iPhone sorti le 29 juin 2007 à 499 dollars, vous en seriez à 13 400 dollars. Et pour les vrais fans, si vous aviez investi les 2495 dollars au lieu en bourse et en titre Apple, au lieu d'acheter le premier Macintosh à sa sortie, c'était en 1984, eh bien, vous auriez aujourd'hui sur votre compte 2 243 600 dollars.
Oh, on serait riche, mais on ne l'a pas fait.
On l'a pas fait. C'était Sabrina Quagliotti, la correspondante de BFM Business à New York. Et dans le secteur boursier, justement, un nouvel arrivant prépare son entrée. Il s'agit d'Airbnb. La plateforme de location de logements entre particuliers a lancé son processus d'entrée sur les marchés financiers hier. Le groupe californien n'a en revanche pas précisé le nombre de titres qui seront mis en vente. Dernier jour de la convention démocrate aux États-Unis, elle doit s'achever ce soir avec le discours de Joe Biden. Cette nuit, Kamala Harris a été investie comme sa colistière. Le chaos permanent nous mène à la dérive, a-t-elle dénoncé. La candidate à la vice-présidence lance alors un appel à la communauté afro-américaine pour battre Donald Trump. Autre temps fort de la soirée, le discours de Barack Obama qui dresse un bilan sévère de la présidence de Donald Trump. Il n'a jamais fini par être à la hauteur parce qu'il ne peut pas l'être. C'est par ces mots que l'ancien président démocrate a qualifié la gouvernance de son successeur. Donald Trump, quant à lui, a rétorqué en affirmant que Barack Obama avait été un président inefficace. Et Donald Trump, justement, qui se lance dans un bras de fer contre Goodyear. Le président américain appelle à boycotter la marque de pneus. En cause, une photo prise au sein de l'usine de Topeka au Texas. Une photo qui montre l'une des règles affichées dans l'usine, celle interdisant de porter des vêtements avec le slogan de campagne du président. Le groupe s'est défendu dans un communiqué, indiquant que la direction n'avait ni créé ni diffusé cette image et qu'elle demandait à ses salariés de ne pas afficher leur opinion politique. En pleine crise du coronavirus, les professionnels de l'hôtellerie cherchent des solutions pour se renforcer. C'est le cas d'Accor qui envisagerait un rapprochement avec son concurrent historique, l'anglais Intercontinental. C'est en tout cas ce qu'a rapporté le Figaro dans son édition d'aujourd'hui, en restant néanmoins très prudent. Le projet de fusion, qui reste encore très préliminaire, permettrait de créer le leader mondial de l'hôtellerie devant Marriott. Et nouveau souffle également dans le secteur aérien en Chine. HSBC a même conseillé d'acheter les titres des 3 grosses compagnies nationales chinoises, la Chine étant le pays qui redécolle le plus vite, même si cela concerne uniquement les vols domestiques pour l'instant. Les vols internationaux sont quant à eux toujours à l'arrêt. Les détails avec notre correspondant en Chine, Sébastien Lebelzik.
Je peux vous dire, pour prendre régulièrement les vols intérieurs ici en Chine, que les avions sont bien pleins, de plus en plus même. On est à peu près à 80-90% de ce que l'on connaissait en Chine avant l'épidémie. La reprise a véritablement commencé au mois de mai, c'est-à-dire au moment où l'épidémie a vraiment ralenti en Chine. Les avions ont redécollé. Depuis, on est sur une moyenne d'un million, 1,5 million de passagers par jour. Donc on peut imaginer un retour à la normale très rapidement, peut-être même dès la rentrée de septembre. Alors c'est évidemment très important parce que la plupart des compagnies chinoises tiraient déjà avant l'épidémie l'essentiel de leurs revenus des vols intérieurs, et donc naturellement, alors que les restrictions de vol n'ont plus cours, eh bien elles retrouvent très vite des couleurs, sans compter les astuces pour augmenter ici la fréquentation, comme China Southern, qui propose un forfait à 450 € permettant de voyager à volonté sur des vols intérieurs à partir de la fin du mois. C'est comme un pass Navigo du ciel, et presque toutes les compagnies chinoises s'y sont mises. Tous les passes ont été vendus en quelques heures seulement.
C'était Sébastien Lebelzig, le correspondant de BFM Business en Chine. Et on apprend que la Commission européenne a annoncé avoir réservé 225 millions de doses du potentiel vaccin contre le Covid de l'allemand CureVac. Il est midi 34. On jette tout de suite un œil sur les marchés avec le CAC 40 en baisse de 1,03% à 4 925 points.
Merci Camille. Restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, focus sur le club des licornes qui s'agrandit.
Tous les jours sur BFM Business, 2 heures de conseils pour optimiser votre épargne. Dès 10h, l'émission 100% placement donne la parole aux gérants et aux conseillers en patrimoine. Immobilier, assurance vie, sélection de valeurs, fiscalité, toutes les infos pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Posez vos questions sur bfmbusiness.com et à 11h35, les professionnels vous répondent. Intégral placement avec Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer, tous les jours, 10h midi sur BFM Business. BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Morris.
Le spécialiste du jeu mobile Voodoo est la nouvelle licorne française grâce au géant chinois Tencent qui est entré au capital de la start-up, la valorisant donc plus d'un milliard d'euros. Le club encore très fermé des licornes françaises s'agrandit donc un peu plus. On y trouve aujourd'hui Blablacar, Doctolib, OVH, Content Square, Deezer, Miro et donc le petit dernier Voodoo. Bonjour Loïc Soubéran, merci d'être avec nous. Vous êtes vous le fondateur de Swile, ex-launcher. D'abord, Loïc, le prochain sur cette liste, c'est peut-être vous.
Bonjour Erwan. Écoutez, peut-être, effectivement. À savoir qu'être une licorne n'est pas un objectif en soi. Ça témoigne simplement d'un gros niveau d'ambition. Et je pense que bon nombre d'acteurs que vous avez cités ne vont pas se cantonner à être simplement une licorne, mais visent toutes, et elles ont bien raison, le titre de décacorne, donc à savoir 10 licornes.
Loïc Soubéran, comment est-ce que vous regardez l'entrée de Voodoo là, dans le club des licornes françaises il y a quelques jours?
Avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie, puisque on se rend compte qu'on a cette vraie volonté de créer des champions mondiaux. Les capitaux sont là, les équipes sont de plus en plus fortes et structurées. Le club des licornes, effectivement, s'agrandit, mais et effectivement, le président Macron avait mis sur sa feuille de route d'avoir au moins 25 licornes d'ici 2025. Je pense que on peut avoir un objectif encore plus ambitieux, à savoir, à mon avis, dès 2030, avoir au moins une vingtaine de décacornes, et à savoir que le ticket d'entrée pour entrer au CAC 40, c'est environ 10 milliards d'euros. Soit être une décacorne. Et si on peut arriver à faire en sorte que la moitié du CAC 40 soit d'ici 2030 constituée de valeurs technologiques et de sociétés créées à partir de 2010, ce sera une belle étape.
Ça me paraît assez ambitieux quand même, à échéance 2025-2030, avoir une vingtaine de licornes en France alors qu'on en compte aujourd'hui 6-7.
Quand on regarde ce qui se passe au Nasdaq ou toutes les valeurs chinoises, on constate notamment, lié à la crise sanitaire, etc., que toutes les valeurs technologiques, un bon nombre de valeurs technologiques ont explosé. Être une licorne outre-Atlantique, c'est loin d'être un exploit. Être une licorne en Chine, c'est loin d'être un exploit. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas exactement le même niveau d'ambition en Europe.
Mais ça veut dire quoi, Loïc Soubéran? Ça veut dire qu'il faut compter aujourd'hui sur les investisseurs américains et chinois. On a l'exemple avec Tencent et Voodoo. Pour aujourd'hui, espérer pouvoir devenir une licorne ou une décacorne demain?
Il y a des fonds européens qui sont de mieux en mieux structurés pour accompagner ces licornes à devenir justement décacornes, puisque en fait, en étant licorne, on est souvent un champion européen finalement. Mais ce qui compte, c'est d'essayer de créer des champions mondiaux. Et effectivement, cette étape décacorne me semble être le moindre des objectifs si on veut essayer de rivaliser à terme contre les deux géants que sont les États-Unis et la Chine.
Bon alors chez Swile, vous, votre innovation c'est de réunir en une seule application tous les avantages salariaux, donc les tickets resto, les chèques cadeaux. Vous voulez être dans toutes les entreprises, j'imagine, c'est ça votre objectif?
Alors on a déjà réussi là en 3 ans effectivement à capter 50% de la dématérialisation du marché des titres restaurants. On ne s'arrête pas du tout là, on a vocation à être la carte des employés qui va accueillir l'intégralité des avantages que les peuvent avoir au sein de leur entreprise, mais également être l'application de leur quotidien. Donc dès que vous du démarrage de l'aventure dans une société jusqu'à votre départ de la société, soit elle sera vous accompagner dans votre quotidien, notamment sur la création de liens entre coéquipiers.
Bon, vous avez récemment levé chez Swile 70 millions d'euros. Combien est-ce que vous êtes valorisé aujourd'hui, Loïc ?
Écoutez, je pense que le statut de licorne, à la prochaine levée, il sera atteint, si ça se passe bien. Et on se donne 24 mois pour passer ce stade-là.
Là, vous avez déjà des pistes, vous êtes déjà en contact avec des investisseurs pour dans les prochaines semaines, prochains mois.
Être licorne ou décacorne n'est qu'une conséquence d'une bonne idée et surtout d'une très bonne exécution. Donc on est 100% concentré sur avoir une bonne exécution. On est présent en France aujourd'hui et justement on se donne 24 mois pour déployer le plus massivement possible notre technologie à l'international.
En fait, si je comprends bien, le milliard, c'est pas ça pour vous l'objectif, c'est de pouvoir être partout en France, partout en Europe, peut-être même dans le monde un jour, mais ça passe par ça, ça passe par lever des fonds, par grossir et par faire partie de cette catégorie qu'on nomme les licornes.
Vous l'avez bien dit, nous, notre objectif, c'est d'avoir un impact sur des centaines de millions d'employés. Nous, ce qui compte, c'est de, à travers nos technologies, renforcer la culture des sociétés et le quotidien des employés. Au plus on aura de l'impact, au plus le cercle vertueux grandira et se renforcera. Et effectivement, la conséquence de tout ça, c'est que si tout se passe bien, on atteindra le statut de licorne dans 18 à 24 mois et le statut de décacorne, justement, j'espère, d'ici 2030.
Bon, bientôt une licorne, alors, d'ici un an et demi. Un mot sur la crise, Loïc Souberan, fondateur de Swile. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, en tant que jeune entrepreneur ?
Alors, je pense qu'on a tous, vécu totalement différemment cette crise. Certains secteurs sont sortis renforcés de cette crise, d'autres, malheureusement, ont eu des grandes difficultés. Et la French Tech n'y a pas échappé. Hein. On voit bien que certaines sociétés, notamment Voodoo, typiquement, qui est dans l'entertainment, ont explosé leurs chiffres, normal, puisque les personnes étaient confinées. Et d'autres, dans le secteur du voyage, ont beaucoup plus souffert. Bon, nous, il s'avère qu'on fait partie de la catégorie qui a vu son activité s'envoler. Pourquoi ? Parce que typiquement, si on parle des titres restaurants, la majorité est encore en papier. Ça a été un enfer pour toutes les directions de ressources humaines de gérer le papier durant ce confinement. Donc, on fait actuellement face à une énorme vague de dématérialisation. Et donc, le papier se transforme en digital et les sociétés ont compris que l'avenir était orienté vers le digital.
Et alors, les entrepreneurs de la French Tech, là, cet écosystème auquel vous appartenez, Loïc Souberan, quand vous parlez avec eux, est-ce que vous avez l'impression que ça va, ils tiennent le coup, ils sont plutôt optimistes pour la suite, même si on comprend bien que d'un secteur à l'autre dans la tech, les enjeux et les conséquences de la crise sont différents. Mais globalement, quel est l'état d'esprit ?
L'état d'esprit, hormis pour bien évidemment les sociétés qui ont été le plus durement touchées et qui ont dû passer, comme toutes les sociétés qui ont été touchées par des plans de licenciement, etc., le moral est plutôt très bon. Pourquoi ? Parce que, justement, les capitaux sont là, il faut le savoir. On a de plus en plus les moyens de nos ambitions et on fait face aussi à une vague et une génération d'entrepreneurs qui ont des ambitions mondiales. Donc, à partir de là, si vous voulez, le mood est très bon.
Bon, alors donc une grosse rentrée en perspective là.
Énorme rentrée avec des belles annonces, je l'espère, dans quelques jours à venir. Notamment sur un cap à passer parce que vous savez, le gros enjeu pour des startups comme les nôtres, c'est bien évidemment, assez naturellement, on sait gérer des petits comptes, on sait gérer des moyens comptes, des plus grands comptes, mais les très grands comptes, il y a souvent un plafond de verre qui est compliqué à franchir et on espère pouvoir annoncer de belles choses bientôt.
Bon, on suivra tout ça en tout cas sur BFM Business. Un grand merci Loïc Souberan d'avoir été avec nous sur BFM. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Swile. Tout de suite, notre rendez-vous de l'été, les grands chantiers avec notre reporter Jean-Baptiste Huet.
BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Morris.
Bonjour Fred Andris.
Bonjour Erwan.
Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le président du Havas Village et qui rassemble les expertises de la communication au sein du groupe Havas. Plusieurs sujets d'actualité avec vous, Raphaël Dandris, puisque vous êtes à la fois une entreprise, Et puis par ailleurs, vous accompagnez, vous aidez aussi les autres entreprises, notamment sur le volet de la communication dans cette période compliquée. Alors commençons par le masque, parce que c'est quand même un sujet fort d'actualité. On apprend d'ailleurs par un article du Figaro aujourd'hui que probablement dans quelques semaines sur les studios télé, le masque sera aussi obligatoire. Bon, on verra en tout cas ce que ça donnera. Il va devenir en tout cas le masque obligatoire dans toutes les entreprises en France à partir du 1er septembre, hein, comme l'a réclamé la ministre du Travail Elisabeth Borne. Là-dessus, Raphaël Dandris, vous avez réagi dans un tweet en disant que le masque est une petite contrainte pour de grands effets. D'ailleurs, sur votre photo de profil, vous portez le masque. Est-ce que vous avez décidé comme ça de prendre les devants et d'anticiper les règles sanitaires qui vont arriver là dans quelques jours?
Alors oui, clairement, chez Havas, on a décidé d'anticiper les règles sanitaires. Pour ne rien vous cacher, je pense qu'on avait des échanges quasi quotidiens pendant toutes ces vacances avec, en particulier, Yannick Bolloré, qui est très soucieux de la santé des salariés et puis l'état-major d'Havas, notamment en France, pour s'assurer qu'on ferait une rentrée dans les meilleures conditions. Et donc, il a été décidé avant le gouvernement que nous allions rendre le masque obligatoire pour les collaborateurs dans les bureaux.
Vous n'étiez pas spécialement favorable au cas par cas ou à dire que les entreprises sont responsables et peuvent prendre les mesures par elles-mêmes. On a beaucoup entendu les responsables, les partenaires sociaux, le MEDEF, la CFE-CGC, les chefs d'entreprise aussi qui nous disaient on n'a pas besoin que l'État nous impose le masque pour tous les collaborateurs en entreprise. On est assez grand pour prendre les décisions. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je suis plutôt confortable dans le fait que l'État nous donne un point de vue sur les directives de santé publique. J'observe que toutes les tous les caissiers, caissières, tous les travailleurs qui n'ont pas le choix le font. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas très confortable, mais on traverse un moment très difficile. Et donc, nous, ça nous pose aucun sujet parce qu'on s'aligne complètement là-dessus. Après, moi, il me semble que l'État est dans son rôle de donner des directives pour la santé des Français. Enfin...
Très bien. Le port du masque, maintenant, il faut aussi en faire un argument de communication pour les entreprises, pour rassurer les clients. C'est aussi ça que vous dites aux entreprises avec lesquelles vous travaillez ?
Non, nous, on ne fait pas du masque un argument de communication. Le masque est une nécessité, quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on gère en pensant que c'est une des réponses, pas la seule. Je ne vais pas faire ici un cours sur les gestes barrières. Mais le masque nous semble une mesure de bon sens. Moi, je prends le métro beaucoup et donc je mets un masque très régulièrement, la transport en commun où tout le monde le fait. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est évidemment, c'est un enjeu de responsabilité pour chacun, ni plus ni moins.
Quand on est client d'une entreprise, on va peut-être aussi regarder si l'entreprise fait bien attention à mettre en place toutes les bonnes pratiques de sécurité.
Oui, vous parlez des clients, les nôtres,
bien sûr.
Oui, alors d'ailleurs, j'étais. Oui, effectivement, c'est vrai que nous, la santé. Enfin, nous, on est un groupe familial. Alors, je ne dis pas que tous les groupes ne font pas ça, mais un groupe familial, ça veut quand même dire que vous avez un attachement un peu familial à à vos salariés. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'énergie mise là-dessus. Nos clients aussi. Moi, j'ai pas vu un patron, j'ai eu des patrons pendant cette période de confinement au téléphone qui quotidiennement, chacun avait comme priorité numéro un la santé de ses salariés. Et donc je pense que nous comme les autres, peut-être plus que certains, mais globalement comme les autres, on a fait très très attention à ça.
Bon, la communication, c'est aussi un secteur qui a été atteint par la crise, ou au contraire, vous avez eu plus de travail pour sensibiliser, pour mettre en place des campagnes ?
Non, la communication a été... très lourdement impacté par la crise. Alors même que les consommateurs, paradoxalement, étaient très 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 en demande d'actes de communication pendant cette période. Mais bon, on peut comprendre qu'une enseigne qui a ses magasins fermés ne communique pas tout le temps. Cela dit, d'autres ont choisi de le faire et ça leur a donné beaucoup d'élan pour la sortie du confinement. On a bien vu que celles qui avaient, je prends un exemple, mais il y en aurait plein d'autres, notamment Decathlon a fait très très attention à communiquer, notamment en publicité, beaucoup pendant la période de confinement. Oui. Ses magasins étaient fermés, son site était ouvert, mais ses magasins étaient fermés. Et Decathlon est ressorti très très puissant à l'issue du confinement. C'était pas gagné. Et je cite Decathlon ici, mais je pourrais en citer d'autres.
Allez-y, mais par exemple, soyons très concrets. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place qui a fait que leur image a été préservée ?
Alors d'abord, l'image des entreprises n'a pas été atteinte, loin de là, puisque en fait les grandes entreprises qui souvent sont voilà très attaquées parce que c'est facile, se sont retrouvées, je pense à la grande distribution alimentaire, comme des plateformes logistiques indispensables pour les Français. Diverses très grandes entreprises, finalement, parce qu'elles ont des capacités logistiques, de services, de process, se sont révélées absolument essentielles. Donc, on a bien vu. Après, il y avait celles qui étaient ouvertes et celles qui étaient fermées. Celles qui étaient fermées manquaient aux gens. Donc, on a vu des gens qui nous disent « Moi, je veux aller chez les Leroy Merlin, je veux aller à la Fnac, je veux aller ici, je veux aller à gauche, je veux aller à droite. » Parce que ça leur manquait. Donc, beaucoup la culture et le bricolage, d'ailleurs, sont venus très, très fort. Et puis, vous avez des entreprises comme Orange, comme votre maison mère SFR, qui ont fait un boulot absolument hallucinant. Je pense à EDF et compagnie. Et donc, on a vu beaucoup d'entreprises, au contraire, sorties grandies de cette épreuve qu'ont traversée les Français.
D'après une étude que vous avez menée avec l'Institut CSA, 40% des annonceurs disent que la réputation de leur marque a été impactée pendant la crise du coronavirus, mais les trois quarts disent que cet impact a été positif.
Oui, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce moment de vérité absolument inédit, c'est que les gens ont un peu laissé disparaître l'écume de « je pense, je fais », voilà, de ce qu'ils pensaient, de leurs émotions instantanées, en se disant en gros « qui m'aide ?» Ouais, qui m'aide ? Or, les grandes entreprises... Pas uniquement. Les petites entreprises ont fait un boulot génial quand elles ont pu, donc je ne veux pas là non plus. Mais les grandes entreprises ont une technicité, un savoir-faire, une puissance, une régularité dans leur capacité à délivrer un produit, délivrer un service en temps et en heure qui est incroyable. Vous imaginez la France entière qui passe en télétravail. Je parle des cadres, hein. Il y a beaucoup de gens qui étaient au quotidien sur le terrain, mais tous les cadres de France qui passent en télétravail, tout d'un coup, vous imaginez, ça veut dire pour les réseaux de SFR ou d'Orange, par exemple, ou de Bouygues, c'est monstrueux. Mmh. Derrière ça, moi, quand je discute avec les patrons de ces entreprises et les dirigeants de ces entreprises, je vois des gens qui ont vécu des choses inédites. Le consommateur s'en est aperçu.
Dans cette étude que je citais, 9 entreprises sur 10 disent aussi vouloir communiquer différemment à l'avenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de numérique ? C'est ça vraiment le sujet numéro 1 ?
Le numérique, c'est une accélération, indiscutablement. Le vrai changement, et nous, c'est notre vision chez Havas depuis 10 ans maintenant, c'est le sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du commerce uniquement à court terme, et comme disent les Américains, take the money and run, ça ne marche plus. Et donc les entreprises, elles ont retrouvé aux yeux des Français, je dirais, une utilité qui les relégitime et qui leur redonne un socle. Après, il faut utiliser cette légitimité pour avoir une approche durable du business.
Bon, les grands chantiers de la communication maintenant, la rentrée arrive, ça se résume à quoi ?
Bah, les grands chantiers de la communication, d'abord, c'est de dire que le mot communiquer, c'est un des plus beaux mots du monde. Communiquer, le jour où on ne communique plus, franchement, on est confronté à des vrais problèmes. Et donc, il faut revenir à la racine de ce mot et faire de la communication qui ait du sens et qui aussi, puisqu'on lui reproche à la communication d'avoir une influence sur les comportements des gens, souvent les détracteurs nous disent « Oui, vous comprenez, vous manipulez les gens. » On ne les manipule pas. On raconte l'histoire qui nous paraît la plus intéressante à raconter. Il faut que ces histoires-là, elles s'alignent avec l'intérêt des gens et de la planète.
Merci Raphaël Dandrys.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous, président du Havas Village. On se retrouve dans un instant pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, à tout de suite.